mais j'avais remarqué ça au départ, et après, quand ils leur demandent déjà de chasser des démons, ils le font en plus.
Ah, c'est sûr que, ouais, mais j'ai même aujourd'hui, je pense que c'est plus facile d'annoncer l'évangile que de chasser les démons.
Ah non. Dans la parole d'ailleurs, on ne me tourmente pas, c'est ne viens pas m'embêter, ou vraiment ne viens pas être tourmenté, c'est quand même.
Bah, c'est souffrir, mais c'est pas regretter. C'est
voilà, non, pas souffrir.
Ouais.
Je n'ai pas dans le sens de vraiment de montrer en fait ta lumière qui me fait souffrir en fait.
Bah, c'est là, je suis bien à l'aise, je suis dans un homme que je possède, c'est cool, et je suis en train de le donner. Et là, toi, tu vas arriver, effectivement, avec ta lumière, tu vas montrer que tu es le plus fort, donc ça fait d'abord souffrir l'orgueil, en fait, du démon. C'est-à-dire que le démon est obligé de reconnaître qu'il est vaincu, qu'il est plus petit, et c'est sûr que ça, c'est une souffrance. Et le démon, enfin les démons en enfer souffrent bien. Et donc là, c'est une espèce d'illustration de la souffrance de l'enfer. C'est la souffrance de l'orgueilleux qui est mis devant la lumière du Christ, qui est vainqueur, et donc qui lui montre qu'il est plus fort que lui. Alors que genre, ce que le démon ne supporte pas, c'est de ne pas être le plus fort. Et de ne pas exister par lui-même, en fait. Donc là, le Christ nous montre que vraiment, il n'existe pas par lui-même, qu'il n'est pas autonome, parce que là, il va quitter cet homme, parce que le Christ va lui ordonner de le quitter.
Il y a quelque chose, justement, que je n'avais jamais remarqué, c'est qu'en fait, se posséder, voyant Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui, au lieu de justement se sauver dans un trou, dans un tombeau et tout. Il a couru vers lui, il cria d'une voix forte. C'est vraiment curieux, ça, hein? Et ça fait complètement à l'inverse à la fin, où finalement, les gens qui ne sont pas possédés lui disent au contraire, va-t'en, on ne veut pas te voir, etc. Et tout. Donc c'est complètement opposé, une réaction. C'est curieux, mais je n'avais jamais remarqué ça. Oui. Parce que Jésus n'a pas cherché, hein, donc... C'est lui qui vient et qui vient. C'est très curieux, ça.
Je pense que c'est pas exactement ce que cet homme savait de Jésus. C'est-à-dire que. Parce que bon, quand il est possédé, c'est pas son âme qui est possédée, c'est toujours son corps qui est possédé.
Donc, c'est là parce qu'il crie, mais finalement, il crie, ben c'est le démon qui crie par lui, quoi.
Bah, après, c'est le démon qui crie.
C'est Jésus, fils du Dieu très haut, c'est le démon qui crie par la voix de cet homme. Hein.
Oui,
il est possédé, hein,
mais quand il se prosterne devant lui, on peut penser que là c'est vraiment l'homme en revanche qui se prosterne et pas le démon.
Ah ben non, bien sûr, mais bon, le démon est dedans et il agit complètement, hein, physiquement, donc il parle par sa voix, il agit par ses gestes et tout, et c'est le démon qui le fait agir.
Bah, je suis pas persuadé que quand il accourt et qu'il se prosterne, ce soit le démon qui le fasse agir. Effectivement, quand il crie, bon là c'est très clair, puisque quand il crie, c'est le démon qui parle dans sa bouche. Mais bon, ça c'est quelque chose qui est assez fréquent chez les possédés, effectivement, que le démon parle avec une voix qui n'est pas la voix de la personne. Mais moi je pense quand même quand il accourt et qu'il se prosterne, là c'est quand même l'homme qui accourt et qui se prosterne, je pense. Après, je n'étais pas là à ce moment-là, ces deux interprétations sont possibles, mais je vois, ça me semble plus cohérent de penser que c'est l'homme qui, avec son cœur, il a quand même son âme toujours, donc il a quand même, il n'est pas non plus possédé dans son cœur, donc son cœur peut, s'il a entendu parler de Jésus, bon, parce qu'on n'est pas non plus à des milliers de kilomètres, c'est-à-dire qu'un homme est juste en face, on peut imaginer que par des gens qui font l'aller-retour dans le lac, par des pêcheurs, etc. Il a pu entendre parler de cet homme qui chassait les démons de l'autre côté du lac. Donc là, on peut penser que c'est quand même lui qui accourt dans l'espérance de la délivrance.
Mmh. il n'avait pas une volonté d'être délivré, il n'aurait pas été.
Oui, après ça, il y a des gens qui sont délivrés, ils n'ont pas vraiment une énorme volonté d'être délivrés.
Et
de choix,
c'est
le choix
lui-même. Il y a certains, on est délivrés tout ça.
Après, je vais...
Il n'y avait qu'un début, il faut qu'un début de
ouais, ça, il n'y a pas vraiment de règle absolue quand même dans ce domaine-là. Après, c'est sûr que si vous n'avez pas la volonté d'être délivré, bon, je pense que vous pouvez l'être, mais que vous risquez d'être repris assez vite. Hein. C'est-à-dire que pour être délivré et que cette libération perdure, en revanche, c'est sûr que ce que tous les exorcistes catholiques recommandent, c'est de reprendre évidemment la vie sacramentelle, de confession, de communion, etc. Donc c'est sûr que si vous avez juste le désir d'une délivrance parce que ben, vous êtes quand même très handicapé, comme vous êtes possédé, un petit peu handicapant pour la vie sociale, donc si vous avez juste effectivement ce désir naturel ou si d'autres l'ont pour vous, parce que ça peut être parfois des familles qui appellent le prêtre en disant on a tellement la famille qui est possédée, machin. Je pense que l'exorcisme... est efficace parce que Dieu, par la bouche de son prêtre, commande au démon, et donc le démon est tenu d'obéir, et donc il est tenu de partir. En revanche, si effectivement la personne n'est pas bien disposée, c'est la fameuse parabole de l'homme qui a vu le démon partir et qui balaye la maison, tatata, mais s'il ne se défend pas, s'il ne se protège pas, s'il ne change pas, ben les démons reviennent encore plus longtemps. Mais je pense que l'exorcisme... ça me semble, pour des récits d'exorcisme, une fois que l'exorcisme produit quand même son efficacité, même sans la volonté de la personne. Parce que c'est chasser le démon du corps, donc en soi, voilà, le corps peut quand même être délivré. C'est une note optimiste hein, qu'elle nous terminons sur son... très bien, parce que là on est très en retard, comme toujours. Donc pour la prochaine fois, ce sera le 20 décembre. Nous aurons la visite de l'ami Komorowski ce jour-là. Enfin, peut-être pas à l'école de prière, mais à Besançon, mais bon, il partira peut-être sans que vous l'ayez vu, malheureusement. C'est le supérieur général. Faudra le couper au montage. C'est le supérieur général. Qui vient rencontrer Monseigneur Bouillon le 20 décembre. Et les prêtres de la maison sont civils aussi. Mais voilà, comme il sera un jeudi, je pense que vous le verrez peut-être pas. Mm-hmm. Peut-être qu'il fera la messe de 9h, mais je n'ai pas encore son emploi du temps. Mm-hmm. Enfin bon, tout ça pour dire que le 20 décembre, il y a école de prière. Et donc, nous continuerons et nous essaierons de lire eh bien, au moins le chapitre 6, même si en soi, cette partie va jusqu'à la fin du chapitre 8.
Est-ce que vous avez
des dates
de janvier?
Eh bien, oui, donc ce ne sera pas le premier jeudi qui suivra les vacances de Noël, puisque là ce sera un caté étudiant jeune pro, donc on fera le, donc ce ne sera pas le 10, je pense.
Oui, c'est le 10,
ce sera le 17. Ce sera le 17 et le 31. Et le... 14, je pense. Février. Une semaine avant le grand départ.
Ah.
24 février.
Enfin,
on fait une école de prière sur place. C'est pas magique. À Jérusalem.